Maintenant, je vais vous présenter Madame Verdès-Leroux. Donc, Jeannine Verdès-Leroux est historienne. Elle est chercheure au CNRS. Concernant sa spécialité, elle est spécialiste de l'analyse des passions politiques. Et concernant ses publications, donc, elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, en particulier l'ouvrage qui s'appelle « Au service du parti, le parti communiste, les intellectuels et la culture », 1944-1956, chez Fayard, parution en 83. « Le réveil des somnambules, le parti communiste, les intellectuels et la culture », 56-85, chez Fayard, sorti en 87. « La lune et le caudillot », chez Gallimard en 89. « Refus et violence, politique et littérature à l'extrême droite des années 30, aux retombées de la libération », chez Gallimard en 96. Et « Les Français d'Algérie », de 830 à aujourd'hui, une page d'histoire déchirée, chez Fayard en 2001. Voilà, donc je vais céder la parole à Madame Jeannine Verdès-Leroux pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons un débat d'une vingtaine de minutes. Merci beaucoup.
En 1989, un livre intitulé « Ma mère, l'Algérie » fut publié à Alger. Son auteur, Jean Pellegris, est né à Sidi Moussa en 1920. Son grand-père, Michel Louis, né en Espagne en 1838, était arrivé en Algérie en 1846 avec son père. Voué d'abord aux travaux les plus rudes, il avait un jour pu louer des terres et il avait travaillé avec une ardeur opiniâtre et un jour il avait acheté des terres. En 1880, ses plantations occupaient 270 hectares. En 1890, 813 hectares auxquels s'ajoutaient 2700 hectares de terre nue. Naturalisé, il devint maire de Sidi Moussa en 1892. Jean Pellegris, le petit-fils, le décrit, un homme cruel, avide et cupide, qui par son travail acharné, son astuce, ses pratiques usuraires, avait fait fortune en quelques années. Le successeur de ce colon impitoyable, son fils Michel, Jean Pellegris le décrit comme un colon bon, juste, paternaliste, c'est-à-dire un père qui connaissait chaque membre de sa famille, une famille où on se parlait chaque jour, où les usages et les croyances de l'autre étaient admis, des gestes ou des cadeaux échangés. Ce colon fit faillite. Jean Pellegris fut enseignant et écrivain. En 1962, il avait participé au tournage du film « Les Oliviers de la justice » tiré de son roman. Le film fut tourné dans la Métidja à l'automne 61 et à Alger au début 62. Et Pellegris explique maintenant quelle était son intention. Il lui paraissait nécessaire de témoigner pour ses frères au moment où, victimes de l'histoire, ils deviendraient les humiliés de l'histoire. Il avait senti que le jour où la métropole se laverait les mains, les pieds noirs seraient pris pour bouc émissaire et rendus responsables de tout. Pour tenter, dit-il, de les consoler et pour en montrer la vérité, il voulait exposer une histoire qui s'était déroulée entre eux et le peuple algérien, histoire faite, écrivait-il, de conciliabules, d'échanges et parfois de tendresse. Il revenait dans son petit livre plusieurs fois sur cette réalité, et je le cite, « On sera étonné si un jour est publiée la correspondance qui a continué de s'échanger depuis 1962 et malgré la séparation entre les uns et les autres. » Sur le plan des droits politiques, écrivait Jean Pellegris, les Français d'Algérie avaient souvent un comportement injuste, mais étaient aussi dans le privé, ouverts, chaleureux, fraternels. Il qualifie de baroque cette communauté multiculturelle où se retrouvaient les défauts des peuples de la Méditerranée, mais aussi toutes leurs qualités. Et je le cite, le sens de l'hospitalité, la joie de vivre, le besoin de théâtraliser le quotidien, l'esprit d'initiative, la qualité artisanale, la merveilleuse connaissance de l'agriculture et de l'horticulture. Jean Pellegri parle d'une histoire mal connue. Je dirais qu'elle est totalement méconnue et qu'elle est remplacée par une histoire du colonialisme qui manipule des catégories mais qui ignore les vivants, tous les vivants, les rapports qu'ils entretenaient et la vie quotidienne là-bas. Pourtant, des bribes de la vie quotidienne ont été décrites. Je pense par exemple à Louis Althusser, car ce marxisme si dogmatique était un pied noir. Il était né à Birmandresse en 1918. Il a évoqué son enfance et ses grands-parents maternels. Son grand-père, né dans la Nièvre, était parti en Algérie après son mariage pour retrouver, dit-il, une situation. Car du côté des parents de ce grand-père, comme de ceux de la grand-mère, il n'y avait pas assez de terre pour installer et nourrir le jeune couple. Ce grand-père était devenu garde forestier dans les forêts les plus reculées et sauvages de l'Algérie. Il avait pour tâche de protéger les forêts contre les chèvres, de combattre les feux, de tracer des routes, de surveiller les travaux. Et Louis Althusser dit qu'il avait vu son grand-père se ruiner la santé en d'interminables courses diurnes et nocturnes à cheval. Il souligne qu'il était aimé des Arabes et des Berbères. Ni Jean Pellegri, ni Althusser ne semblent avoir été bien entendus. Ils sont bien oubliés, ces Français, ou souvent caricaturés, 40 ans après un exode dramatique. Je voudrais ce soir essayer de vous les décrire. Sont-ils difficiles à comprendre ? Ce n'est pas sûr. Ils sont certes différents, mais même dans les années sombres, on pouvait lire des informations solides et sûres. D'abord, ce que Germaine Tillon avait souligné en 1957. Elle avait rappelé la composition de cette population et rappelé que colon veut dire propriétaire terrien d'origine européenne. Et je la cite. Or, il y a en Algérie, sur 1 042 409 minoritaires, exactement 19 400 colons au sens strict, dont 7 432 possède moins de 10 hectares. Des vrais colons, il y en a environ 12 000, dont 300 sont riches et une dizaine excessivement riches. Avec leur famille, les 12 000 colons constituent une population d'environ 45 000 personnes. Les autres colons, 1 million d'êtres humains, écrivait-elle avec placidité, ce sont des ouvriers spécialisés, des fonctionnaires, des employés, des chauffeurs de taxi, des garagistes, des chefs de gare, des infirmières, des médecins, des enseignants, des standardistes, des manœuvres, des ingénieurs, des commerçants, des chefs d'entreprise. L'ensemble de ces Français représentait l'infrastructure économique d'un pays qui survivrait mal à sa perte, écrivait-elle en 1957. Elle soulignait donc qu'il s'agissait d'une société complète, avec tous les métiers, tous les statuts possibles, et non une caste de riches, d'exploiteurs. Or, ce cliché est la vie dure. Quelle était donc cette population ? Au cours, et surtout après la longue guerre de conquête, coûteuse en hommes et en argent, ce que Bugeaud avait martelé pendant 10 ans avant d'être nommé gouverneur en 1841, les gouvernements pensèrent en termes de colonies de peuplement. Le territoire était immense, la population locale peu nombreuse, seulement la France n'a jamais connu de grands mouvements d'émigration. De 1820 à 1882, 380 000 Français ont émigré, alors que dans la même période, 8 590 000 Anglais et Irlandais, 4 600 000 Allemands, 700 000 Italiens l'ont fait. La nécessité d'un concours étranger était patente dès le début. Émile de Girardin, journaliste influent sous Louis-Philippe, avait dit très tôt que la colonisation est une ressource pour un État qui a un excès de population, mais qu'en France, la population pouvait doubler sans que le territoire ou le travail ne manque. Les Français d'Algérie ont donc été constitués à partir d'un mélange de peuples venant avant tout de pays du pourtour de la Méditerranée, mais pas seulement. Il faut savoir que de 1830 à 1853, le peuplement a été constitué uniquement par l'arrivée d'émigrés, car les décès d'Européens dépassaient les naissances, ce qui éclaire les conditions de travail et d'adaptation. Et à partir de 1854, l'augmentation se fit en partie par les naissances, avec encore des années sombres. En 1868, les décès l'emportaient encore sur les naissances. Je vais donner juste quelques chiffres. Voyez la progression de la population européenne. En 1841, ils étaient 37 370. En 1846, 109 400. En 1861, 192 640. En 1881, 385 360. Et au début du siècle, 583 840. D'où provenaient d'abord les Français de souche, comme on disait à l'époque? Eh bien, la plus grande partie venait de départements pauvres qui perdirent à la fin du XIXe siècle une part importante de leur population. C'étaient des immigrants qui cherchaient simplement à survivre ou à vivre moins mal. C'était la Corse, le territoire de Belfort, les Pyrénées-Orientales, les Hautes-Alpes, le Vaucluse, les Balzacs, la Drôme. D'autres départements envoyèrent aussi des contingents importants, mais qui représentaient qu'un faible pourcentage de leur population, par exemple la Seine ou les Bouches-du-Rhône. Il y eut des départs individuels, des départs économiques, des départs aussi, on peut dire, politiques. Les légitimistes que le gouvernement de Louis-Philippe avait privés de fonctions et qui, eux, partirent avec des capitaux importants. Il y eut aussi des capitalistes à partir des années 1880. Il y eut aussi des départs forcés, ceux qu'on appelle les transportés de Napoléon III, 300 000 républicains qu'il avait envoyés de l'autre côté de la mer après la suite du coup d'État du 2 décembre 1851 et un deuxième transport de républicains en 1858. Il y avait des départs qui étaient encouragés par les préfets, par exemple Barin en 1838, mais aussi un peu plus tard la Haute-Savoie, le Doubs. Il y avait aussi des départs organisés par les gouvernements. Ainsi, l'envoi connu des ouvriers qu'on dit parisiens en 1848, en fait, ils n'étaient pas tous parisiens. Un décret de septembre 1848, après les fermetures des ateliers décennaux, avait décidé cet envoi. Il y eut plus de 100 000 demandes et 14 000 furent sélectionnées. L'échec fut presque total. 195 s'établirent définitivement en Algérie. Départ encouragé aussi ceux des Alsaciens lorrains qui voulaient rester français après l'annexion par l'Allemagne. Afin de ne pas répéter l'échec des ouvriers de 1848, le gouvernement s'était engagé à organiser leur installation. En fait, ces défaillances purement patentes expliquent que cette colonisation ait fourni des résultats très médiocres au point de vue de la mise en valeur du sol. Seulement 387 familles possédaient encore leur concession à la fin du siècle, mais elle a fourni un résultat appréciable au point de vue population, c'est-à-dire que beaucoup de familles avaient trouvé de petits emplois dans le commerce, l'industrie, l'administration. Plus nombreux que les Français de souche ont été les Espagnols, dont la majorité venait d'Andalousie. Le flux en avait été particulièrement important de 1872 à 1886. On les trouve alors dans les travaux agricoles, les vignes, le défrichement, dans le commerce, dans les travaux publics. On construit beaucoup de routes, de ports, de chemins de fer. On les trouve aussi dans les petites industries et quelques rares possesseurs de domaines agricoles. Les descriptions publiées à la fin du XIXe leur accordent au moins deux vertus, un grand courage et de la sobriété. Mais on parle souvent, et on en parlera de plus en plus, de dureté. Et dans les entretiens, des enfants de colons me disaient, mais durs envers eux-mêmes, ils étaient durs avec leurs enfants, et naturellement, ils étaient durs pour leurs ouvriers. On ne serait oublié, en pensant à l'Espagne et en pensant à Camus, aux populations arrivant des Baléares. À l'époque, de manière indistincte, on les appelait Mahonais. Et là, on est frappé par les éloges appuyés qui en étaient faits. Je vais remarquer, quelqu'un qui écrivait n'en est pas d'aussi estimable en 1882, et c'était d'autant plus intéressant puisque cet auteur s'alarmait dans le même livre de l'afflux d'étrangers. Il parlait même, et je mets des guillemets, de péril étranger et surtout demandait un contrôle plus grand de la moralité des étrangers. Il faut relever aussi, car le cas est unique, qu'il y avait dans ce groupe plus de femmes que d'hommes. Ailleurs, le déséquilibre était patent. Les femmes espagnoles venaient aussi pour travailler comme employées de maison dans la manufacture. Ils étaient, on le sait, très fortement représentés en Oranie, qui longtemps les avait attirées. Pendant 3 siècles avait duré ce qu'on appelle l'impérialisme restreint, c'est-à-dire que les Espagnols occupaient des ports et les transformaient en places fortes. Ils vivaient en état de siège et ne survivaient qu'à coups de razzia. Et cette expérience malheureuse des Espagnols était présente dans les esprits en France au début de la conquête quand il y avait discussion pour savoir si on ferait une occupation restreinte ou une colonisation. Moins nombreuse était la population venue de l'Italie. Dans les entretiens que j'ai menés auprès de Français d'Algérie pendant 5 ans, ces dernières années, personne parle de l'Italie, mais cite toujours une région, une ville, car de nombreuses familles étaient venues avant l'unité de l'Italie ou à une époque trop proche pour que cette unité les ait façonnées. Alors on trouve des originaires de la Sicile, de la Sardaigne, de Naples et de sa région, de la Calabre, mais aussi de Toscane ou de Vénétie. Ce sont des provenances très diversifiées et des apports très variables d'une année à l'autre. À l'époque, il sera remarqué que leurs raisons, leurs motifs ne sont pas tous économiques, mais parfois politiques. Une étude de démographie insiste sur le fait qu'arrivent des déserteurs des armées de divers États, d'hommes voulant échapper à la conscription, hommes voulant se soustraire à la justice, donc ils sont suspectés d'être insubordonnés. Ce qui explique peut-être que le portrait soit dans l'ensemble moins favorable qu'aux Espagnols. C'est un peuple familier, sans gêne, nous dit-on, joyeux et bruyant. Ils ne sont pas dans l'agriculture. S'ils cultivent la terre, c'est en tant que maraîchers. Ils sont pêcheurs. Ils sont ouvriers dans la construction et les travaux publics, petits commerçants. Ils s'installent surtout à l'Est, ainsi que les Maltais, troisième groupe d'étrangers par son importance. L'immigration des Maltais commença dès 1830 parce qu'ils étaient fournisseurs de l'armée. Et dans les 20 années suivantes, elles progressent très vite. Pour l'essentiel, au 19e, ils sont commerçants. Ils ont eu souvent une mauvaise image, on peut même dire la plus mauvaise image, alors qu'un démographe dans les années 1950 soulignait que leur intégration avait été rapide et, écrivait-il, c'est la population la plus facilement assimilée. Je voudrais profiter de ça pour dire une évidence. Beaucoup des cris de la fin du 19e parlent d'esprit de lucre chez les Maltais. Une belle étude sur Alger de 1930 par un géographe, René Lespès, parlant des Maltais, parle d'esprit d'économie et d'aptitude commerciale. On voit donc que le même trait peut être désigné par un mot péjoratif et des termes positifs. De la même façon, quand on voit les expressions utilisées dans des entretiens par des appelés de la guerre d'Algérie, qui ont été souvent sollicités ces dernières années, et parfois sans toutes les précautions de méthode, il faut voir que les adjectifs qu'ils utilisent, les scènes qu'ils décrivent, en disent plus sur eux-mêmes, sur leur mentalité, que sur les pieds noirs qu'ils pensent décrire. Donc, espagnols, italiens, maltais, auxquels s'ajoutaient des Allemands, qui est arrivé en assez grand nombre entre 1840 et 50, et puis des éléments de presque toute l'Europe, ont formé avec les Français de Chousse, les Français d'Algérie. Au cours de cette histoire d'un peu plus d'un siècle, sont d'abord côtoyés, méfiés, puis ils ont échangé des habitudes culturelles, des manières de parler, des pratiques culinaires, des principes, des modes de loisirs, et ils ont fini par s'épouser. Et les récits de vie m'ont personnellement souvent fascinée par le côté bariolé des familles. Il n'est pas rare de trouver dans les récits des grands-parents de deux ou trois nationalités différentes, même si maintenant j'ai rencontré des gens qui, dans l'exil, se targuent d'être 100% espagnols ou 100% maltais, en étant évidemment 100% français. Enfin, on serait oublié la communauté juive. Elle était constituée par 34 000 personnes en 1870, lors de la naturalisation collective qui avait été voulue, qui ne fut qu'accélérer une évolution déjà largement dessinée. Il faut souligner l'intégration remarquable de cette communauté, même si la majorité restait très pauvre. Elle était forte de 150 000 personnes lors de l'exode de 1962. Au cours de cette courte histoire, je le répète, 132 ans, les images de cette population en train de s'amalgamer vont se transformer. On repère aisément trois phases. Pendant une première période de 50 ans, l'image est le plus souvent péjorative. La pauvreté, les difficultés de communication dues à la diversité des langues, la dureté du travail, les conditions dangereuses et précaires de l'installation, car la conquête fut longue, les malentendus et les heurts avec les populations locales font que les Européens attiraient souvent le mépris et, dans le meilleur cas, l'ironie ou la condescendance. Les écrits des militaires de la conquête, car ils écrivaient beaucoup, abondent en jugements sans appel. Bugeaud écrivait le rebut, la lie de la Méditerranée, car cette population très pauvre et facilement malade, pas toujours jeune, ne correspondait pas à ce qu'il souhaitait comme colonisateur. Et il était loin d'être seul à avoir ce jugement. Je pense ici aussi à Alphonse Daudet. Bien après la publication de Tartarin de Tarascon, il regrettait d'avoir écrit une galéjade, disait-il, alors qu'il aurait fallu écrire une histoire de mœurs cruelles et vraies. Or, dans ce récit, il faisait, mais avec des bonheurs de plume, un portrait qu'on trouve dans beaucoup de mauvais romans de l'époque. La société est louche, les hommes sont des joueurs, les femmes de petites vertus. Débauche, ivrognerie, prostitution sont des thèmes fréquents dans des romans d'époque. On peut penser ici à certains westerns sur les débuts où effectivement les femmes ne sont pas souvent vertueuses et que les hommes sont effectivement joueurs. On voit aussi énormément d'études sur l'absinthe. Il est vrai que l'introduction de l'absinthe par l'armée de conquête avait eu des effets meurtriers. Je signale pour ceux qui s'intéressent à ce sujet une iconographie absolument remarquable réunie en 1930 pour le centenaire par Gabriel Esquer. Il montre des caricatures et on voit comme elles sont sans pitié pour ces colons qui ne paraissent pas très travailleurs dans ces dessins. Deuxième phase, donc là on arrive en 1880 et jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'image des colons est laudative, atteignant son apogée en 1930 au centenaire. Parce que les autorités, pleines de suspicion au départ, avaient vu des transformations spectaculaires, rapides du pays, des réalisations réelles. Et d'autre part, les gouvernements avaient changé leur attitude. Sous Louis-Philippe, la volonté politique était hésitante, incertaine. Sa grande question, c'était que faire ? Sous Napoléon III, où il y avait un grand sens des formules et des spectacles, d'où l'intérêt aussi, puisque Napoléon III visita deux fois l'Algérie longuement, mais sa politique était pleine d'oscillations et d'embarras. Mais la Troisième République, enfin bien établie en 1880, a un projet. Elle a des résolutions claires. Même si les oppositions ne manquent pas, il faut penser ici aux interpellations de Clémenceau et du niveau de débat à l'Assemblée. Mais en 1880, pour beaucoup, il faut compenser la perte matérielle de l'Alsace-Lorraine et la blessure morale qu'elle a engendrée. Il faut montrer aussi l'excellence de la France, on ne disait pas l'exception à l'époque, en diffusant les valeurs de la Révolution, puis remplir une ambition d'expansion. Pourtant, Jules Ferry, qui est celui qui vraiment élabore cette pensée coloniale, sera réticent jusqu'à la fin devant le personnage du colon. Il fait un voyage à la tête du commission du Sénat en 1892 et il avoue sa déception en disant que les colons ne lui semblent pas remplir la mission éducatrice et civilisatrice, ce sont ces mots qu'il leur attribue. Faut-il rappeler que les pauvres n'étaient pas venus en mission et que l'analphabétisme encore fréquent à la fin du siècle explique les limites de leur action et de leur intérêt. Mais très vite, ces critiques vont disparaître. Bien plus, les qualités vont sans cesse être exaltées. Ardeur, courage, initiative, invention et même génie, avait dit un gouverneur à la fin du siècle, Jules Gambon. Les fêtes du centenaire en 1930, qui durèrent 6 mois, ont été rapportées dans un gros compte-rendu de 1000 pages qui a publié tous les discours prononcés. Et qu'il le soit par les autorités de la métropole ou par les notables locaux, l'euphorie était totale. La mission est remplie comme aucun autre pays ne sait le faire, affirment toutes les autorités, et ceux qui l'accomplissent sont célébrés comme étant exceptionnels. Il faut faire aujourd'hui un véritable effort pour lire ces pages quand le ton est aux antipodes de ce que nous avons entendu, ce à quoi nous sommes habitués, le plus souvent à notre insu. Troisième phase, dès le début de ce qu'on a appelé les événements, le colon, et le mot est alors utilisé à tort pour désigner tous les habitants, tous les Français d'Algérie, sont chargés de péché. Richesse, égoïsme, exploitation, pensée réactionnaire, raciste. Il est inattendu de voir que Sartre, l'espace d'un instant, avait senti cette façon générale de parler, poser des problèmes. Il dénonce le système colonial, écrit qu'il n'y a pas de bons et de méchants colons, mais dans une note, il précise qu'il n'appelle pas colons les petits fonctionnaires et les ouvriers, car ils sont, dit-il, il l'écrit, à la fois victimes et profiteurs innocents. Cette expression a, je trouve, une grande saveur. Il semble donc que ce ne soit pas un péché d'être profiteur innocent. Mais Sartre oubliait aussitôt ce qu'il venait d'écrire et il poursuit. Le cycle infernal du colonialisme est une réalité, mais cette réalité s'incarne dans 1 million de colons, fils, petits-fils de colons, qui ont été modelés par le colonialisme et qui pensent, parlent et agissent selon les principes du système colonial. Je demande ce sont devenus les victimes et profiteurs innocents, puisqu'à nouveau, ils sont réintégrés dans 1 million de colons. En tout cas, la propagande du FLN, les récits des appelés, le prix du verre d'eau, par exemple, vient d'eux. Les images diffusées par une partie de la presse répètent à peu près la même chose. La population riche exploite et la richesse rend réactionnaire. Autour de cela, on trouve deux clichés ou trois. On voit écrit qu'ils sont d'une ignorance crasse. Vous rappelez que les pieds noirs étaient en 1970 plus diplômés en pourcentage que les métropolitains et qu'ils ont apporté à la France deux prix Nobel, dont un en 1987, un prix Nobel de physique, M. Claude Cohen-Danougi, qui était passé directement du lycée Bugeaud à l'école normale supérieure en 1953. Autre trait qu'on voit même par écrit, ces pieds noirs seraient arrogants. Mais enfin, quelles sont les populations qui n'ont pas des arrogants et des minorités gueulardes, pour reprendre une analyse de Schumpeter? Et surtout, on continue à dire qu'ils sont racistes. Il n'est pas exceptionnel que des pieds noirs aient compris quelque chose qu'on comprend beaucoup moins ici. Et je cite un des entretiens de quelqu'un de la génération 30-39. « Il nous a fallu être coupés de ce monde-là pour comprendre tout ce que la cohabitation avec une autre civilisation nous a apporté. Ça nous a apporté quelque chose dont les Occidentaux sont totalement dépourvus. C'est tout simplement de comprendre qu'on puisse penser autrement que nous. » L'existence de l'OAS, Organisation de l'armée secrète, dont il faut souligner qu'elle est née très tardivement, quand l'issue était enfin apparue, achevait de noircir la peinture des pieds noirs. Vue injuste, car ce mouvement, qui n'est pas encore aujourd'hui bien analysé, ne représente pas toute la communauté, mais une partie d'entre elles, et cette partie d'ailleurs était très hétérogène, très complexe. Il y a 30 ans, un journaliste de pieds noirs, Gabriel Conessa, a écrit un passage d'un livre sur Babeloët que je trouve très juste. Comment avons-nous pu en arriver à cet égarement, à ce défi, à ce suicide collectif, déclarer la guerre à l'armée française? C'est parce que le désespoir nous a tous rendus fous. Nous sommes tombés dans une déraison sans espérance et nous y sommes installés. Puisque on ne peut plus rien sauver, autant tout détruire. Un torrent nous emporte chaque jour plus vite, et même si un seul d'entre nous avait conservé la liberté d'esprit, il ne pourrait reprendre pied. Pourtant, notre folie a sa logique et sa morale propre, que chacun de nous peut expliquer et justifier, mais que personne, hors ici, ne peut plus comprendre. D'une manière générale, les pieds noirs, qui n'étaient pas connus, ne furent pas compris. Il fallait la sagesse, qui ne fut pas entendue, de Raymond Aron, qui, prenant position pour l'indépendance en 1957, a écrit aussi « Probablement, nos sentiments seraient-ils ceux de nos compatriotes d'Algérie si nous étions à leur place », c'est-à-dire qu'ils refusaient de juger des conduites. J'ai fait une longue enquête ces dernières années pour écouter des hommes et des femmes de tout métier appartenant à des générations très différentes, ayant des origines géographiques familiales variées, vivant dans des lieux les plus divers. J'ai tenté dans deux chapitres de faire entendre ces Français-là. Pendant longtemps, ils s'étaient tus. D'abord parce qu'ils ne voulaient pas se faire souffrir inutilement de surcroît. Puis parce qu'ils étaient entièrement mobilisés par la volonté de s'intégrer, travailler, certains ont dû changer complètement de métier, s'occuper des enfants. Et pour comprendre ces Français d'Algérie, je veux qu'on ait comme point de départ une proposition simple, un pied noir, issu d'une famille modeste et marquée à gauche, car elle exprime un état d'esprit général. Il dit « Pour nous, l'Algérie, c'est un département français comme un autre. On racontait la conquête, je ne me posais pas de questions. C'était comme ça. On avait quand même l'impression que la France apportait le progrès. Elle apportait l'éducation, les écoles, les médecins. Il faut comprendre qu'une grande majorité de gens qui vivaient en Algérie n'étaient pas des oppresseurs, c'était des enseignants, des petits fonctionnaires, des employés de poste, des artisans. Et qu'il en serait toujours ainsi était une opinion presque unanime. J'ai cité tout à l'heure Germaine Tillon, ce qu'elle avait dit des colons et de la surface des propriétés. Et cette réalité est encore aujourd'hui mal retenue. C'est pourquoi je veux citer le colonel Buis, ce qu'il a dit 10 ans après l'indépendance. On imagine toujours le colon triomphant. C'est faux. Et la réalité autrement émouvante. Tout au long de la jointure des mots du Honda et du plateau Sétivois, habitaient de pauvres villages. Les villages avaient été peuplés par des misérables venant des pauvres régions de la France de Napoléon III. Ces premiers arrivants très frustes avaient accepté une situation qui ne changeait certainement pas beaucoup de celle qu'ils avaient quittée. En 1958, il n'y demeurait plus que des gens abandonnés, quelques Français très malheureux, terriblement menacés. Survivaient aussi des bourgs un peu plus importants où demeuraient encore 20, 30, 50 Français. J'étais un homme très humble devant le courage et l'amour de leur terre, je devrais dire pour leur pierre, de ces Français-là. Que retenir de la description de leur passé? L'importance donnée à la famille, on voit bien tout ce que les Espagnols et les Italiens ont apporté à ce comportement. La famille, avec une majuscule, est souvent saluée lyriquement comme le lieu de réunion, de fêtes, de repas élargis et accueillants. Dans un pays chargé de religiosité, l'histoire familiale compte beaucoup. Ce qui éclaire le regret qui est souvent exprimé des cimetières négligés ou saccagés. On sait aussi le rôle de l'enseignement, et sans doute c'est assez connu pour les faut pas s'y attarder, et la lettre de Camus à son instituteur, qu'il a écrit quelques jours après le prix Nobel et qui a été publié à la fin du premier homme en 1994, en est une parfaite illustration. Mais je voudrais souligner aussi le rôle des instituteurs auprès des enfants musulmans. Un ancien instituteur, Lucien Patania, âgé d'un peu plus de 80 ans, d'un milieu modeste, fils de pêcheur, a écrit avec passion, dans un livre à compte d'auteur, chronique d'un itinéraire singulier, sa première expérience. À 19 ans, il fut envoyé dans un village, Isarazen, à 2 heures de marche de l'arrêt d'un autocar, par un chemin de crête. Il avait trouvé une maison vétuste, isolée, sans chauffage, un vieux gardien, une 60aine d'enfants, dans une classe unique. Ses enfants avaient entre 6 et 12 ans. Et près de 60 ans plus tard, quand j'ai rencontré cet homme, il m'a parlé avec enthousiasme de sa première expérience d'enseignant. Il a évoqué, avec une pitié jamais atténuée, de la dignité et la misère de ces petits kabyles. Et cette histoire n'est nullement unique. Autre thème que je veux souligner, le travail. Les sociétés neuves, et donc les sociétés coloniales, procurent un sentiment de puissance à des métiers qui sont souvent devenus routiniers dans une vieille société. Car les acteurs sentent qu'ils peuvent prendre des initiatives, créer, qu'ils peuvent étendre sans cesse les objectifs de leur travail. Je vais citer un chirurgien qui m'a dit « On avait l'impression qu'on avait été bâtisseur d'empire. Peut-être que c'est un grand mot, qu'on est victime de notre propre orgueil. » Il parle de jeunes confrères arabes de son quartier, il habite dans le Vaucluse, qui ne veulent pas rentrer dans le pays, dit-il, pour une raison que j'aurais acceptée, moi. C'est-à-dire mener la vie d'un médecin de bled, tels que l'ont vécu les médecins de la colonisation. C'est trop dur pour eux. Des générations de médecins ont accepté, c'est-à-dire partir à 2 heures du matin, aller à pied, aller accoucher dans un gourbi, risquer d'avoir, comme ils presque tous eu, la typhoïde. Travailler dur, ça ne fait rien. C'est quelqu'un de la génération 1920-1929. Les pieds noirs, de manière presque générale, pensent qu'ils proposaient à la population musulmane un mode de vie plein de séductions qu'ils mettaient en œuvre devant elles et que la plus grande partie d'entre elles ne chercha pas à se l'approprier. Mais c'est oublier ce qu'avait vu ce colonisateur ardent, Jules Ferry, qui avait parlé d'une victoire violente qui avait bouleversé l'Algérie comme une herse aux dents aiguës. C'est-à-dire que la colonisation a laissé un héritage positif et des séquelles négatives, car elle a laissé cette société à l'intersection du Moyen-Âge et de la modernité. Enfin, ouvre thème fort dans les récits de Pieds Noirs, le rapport à la France. D'abord, l'amour d'une France idéale, où dans les récits se mêlent tout un passé hétéroclite, mais sa littérature, ou bien la neige, ou les rivières. Un patriotisme vraiment exacerbé, et l'amour de l'armée. Et chez beaucoup, du temps où ils étaient de l'autre côté de la Méditerranée, la déception devant la France réelle, perçue surtout entre les deux guerres, comme un pays vieillot, maussade et triqué. Et dans les entretiens, on ne peut pas oublier ce qu'il dit aussi de la France marâtre, celle qui les a bradés, c'est leur mot, qui n'a pas su les accueillir. L'émotion était si forte dans la plupart des entretiens, quel que soit l'âge, le métier, le lieu de vie, que je sentais qu'il existe, au-delà de l'amertume de l'exode et des ressentiments contre la mère patrie, des attachements puissants. Ces attachements nous paraissent, à nous, bâtis sur des petits riens. Camus a écrit dans sa jeunesse « Ce pays est sans leçon ». Il ne promène, il ne fait entrevoir. Il se contente de donner, mais à profusion. Il est tout entier livré aux yeux et l'on le connaît dès l'instant où on en jouit. Cette population a subi un exode qui était pour elle impensable, incroyable, tant l'attachement au pays, et non bien matériel, et un mode de vie singulier était immense, viscéral. L'exode précipité de 62 reste dans les entretiens comme une fuite inévitable et incompréhensible. Des centaines de milliers de gens ont dans la stupeur, l'incompréhension, la douleur, traversé la Méditerranée. Des photos de magazines, des images de télévision rappellent la pauvreté, le désarroi de ces hommes et des femmes. Un de mes interlocuteurs, s'il ne dit pas un mot de son propre départ, parle avec passion des petites gens. Les métropolitains, ils étaient complètement interloqués parce qu'ils voyaient cette misère s'étaler sur le port de Marseille, de Sète, et ces gens qu'on leur avait présentés comme de grands colons, ils débarquent là sans un rond. Les métropolitains voyaient débarquer de pauvres familles complètement démunies, désespérées, en larmes, avec des valises vides, parfois sans valises. Ce n'est pas seulement le souvenir de la pauvreté qui indigne et émeut encore, c'est aussi la propagande mensongère sur la communauté des Français d'Algérie. Et je cite un Oranais, l'exode, je trouvais ça atroce, trop injuste, c'était affreux. Toutes les valeurs pour lesquelles s'étaient battus tous ces Juifs d'Algérie, il est lui-même juif, tous ces Juifs d'Algérie j'avais connus, rejetés aux poubelles de l'histoire pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis par une communauté française de gauche, par le monde qui n'avait jamais pris le moindre risque en disant de leur bureau parisien capitonné, ces gens-là, ils ont assez fait suer le burnous, alors que les plus favorisés avec ce malheureux tiers colonial et la grande majorité des autres vivaient dans la pauvreté. Comment des autorités politiques ont-elles pu penser et dire à l'époque qu'ils venaient en vacances en France ? Philippe Ariès, qui n'était pas encore le grand historien qu'il allait devenir, avait demandé avec un élan qui fut exceptionnel de la compassion pour les Français d'Algérie. Je le cite, « Aucune grande voix ne s'est levée en leur faveur. Pas de Michelet, ni de Lamennais, ni de Proudhon. Peut-être Camus, s'il avait vécu. » Il s'en est pris aussi à plusieurs reprises au silence de l'Église et à l'indifférence des Français d'Algérie dont ils entendaient dire qu'il n'était pas français. Il faut savoir qu'un bon nombre de pieds noirs n'étaient jamais venus en France, ils n'y connaissaient personne. Certains étaient venus pour la première fois à l'occasion du débarquement de 1944. Et puis arrive-t-on sur un lieu de vacances dans cet état d'hébétude ? Les photographies sont un témoignage irrécusable de ce drame qui déboucha sur un exil singulier. Un de mes interlocuteurs me disait « C'est une sorte d'exil très particulier. Quand un Russe, comme Nabokov, est aux États-Unis, il est exilé, il sait que le régime a changé, il sait aussi que s'il retourne en Russie, il va retrouver les usages. Tandis que nous, on a quitté un pays où tout a changé de nom et où, en somme, on efface tous les signes. Ce n'est pas seulement un pays perdu, c'est un pays qui n'existe plus. Ces mots ont été très souvent répétés par des interlocuteurs ayant un métier, un passé très différent. Un de mes interlocuteurs, qui était parti jeune instituteur, m'a dit « Le gouvernement nous doit 35 ans de soleil, de fraternité, de tout ce qu'on a laissé là-bas, même si nous n'avons pas de bien. » Si ce vœu ne peut rester sans réponse, il faut dire que l'apaisement des Français d'Algérie passera par la révision des jugements portés sur eux et par l'écriture d'une histoire équitable. On en est loin. La lecture dominante avait été fabriquée dans les violences du temps. Il s'agissait de souffrances, de morts d'hommes et de principes à défendre. Cette lecture, loin d'être repensée, critiquée, a toujours ces mêmes schématismes, ces oublis, ces jugements. L'épinoire se trouve en but à une histoire qui domine en France, même si à l'opposé de l'histoire que veut assumer l'actuel chef d'État, M. Chirac. Je pense au discours qu'il prononça le 11 novembre 1996 en inaugurant un monument à la mémoire des victimes civiles et militaires tombées en Afrique du Nord de 1952 à 1962. Il associait les soldats disparus, les soldats de l'armée d'Afrique et l'œuvre des Français, disant, ce sont ces mots, que les uns et les autres ont mérité les honneurs de la mémoire. Cette vision est peu répandue. Les Français d'Algérie sont aussi en but à l'histoire que leur pays natal a construite. Il est vital que l'Algérie, collectivité de naissance, se cherche un passé. Mais en utilisant des mots comme « occupation », le président actuel de l'Algérie, M. Bouteflika, pose un problème douloureux aux Français d'Algérie et bien sûr aux Algériens qui étaient francisés et aux harkis. Face à ces versions d'histoire, les Français d'Algérie ont tendance à raconter une histoire irréelle, encore que j'approuve une remarque qu'avait fait Fernand Braudel il y a 30 ans. Un jour peut-être, sur ces années perdues, un pied noir écrira un livre comme « Autant en emporte le vent ». Ce roman n'existe pas. Et les écrits des pieds noirs gomment souvent les tensions, les drames, et manquent d'interrogations sur ce passé et sur son éclatement final. Il faut comprendre que la violence des événements, la brutalité du départ, ne pouvait qu'être incompréhensible. Et là, je pense à une belle réflexion de Serge Moscovici racontant sa jeunesse roumaine dans les temps sombres des années 40. Je cite, je crois que c'est très juste. « Comme toujours, dans les situations historiques, personne n'a la moindre idée de ce qui se passe. L'histoire traite les hommes sans pitié. Mais d'abord, elle leur bande les yeux en leur faisant croire que le pire n'est pas pour eux. » Les pieds noirs ont subi une histoire à laquelle ils n'ont pas participé aussi peu. Dans un entretien, un me dit « En 62, j'avais l'impression que les événements qui me forçaient à partir étaient des événements qui me dépassaient complètement. J'ai bien l'impression que non plus, ne comprenais pas pourquoi. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas des problèmes, des contradictions. S'il y avait une révolution, une guerre aussi dure, c'est qu'il y avait d'énormes contradictions, des problèmes. Mais sur le plan individuel, ça ne venait pas jusqu'à nous, ou alors sous une forme très atténuée. Cette stupeur devant la fin de l'Algérie française est presque générale. Elle n'est pas seulement éprouvée par les Français d'Algérie. Jean Daniel a sans doute eu raison d'écrire en mars 62 « Le problème algérien n'a-t-il pas dépassé tout le monde, De Gaulle, les Français ?» On voudrait que 40 ans plus tard, ce problème soit compris. Je viens de lire un livre tout nouveau de l'historien américain Fritz Stern, « Grandeur et défaillance de l'Allemagne du XXe siècle ». Une intervention qu'il avait faite à une réunion sur les patries perdues. S'y rencontraient des Polonais qui avaient perdu une patrie à l'Est annexée par l'URSS en 1945 et des Allemands qui avaient perdu une patrie à l'Est enlevée par la Pologne. Évoquant avec mesure l'amour de la patrie perdue et les pertes psychologiques beaucoup plus profondes que la perte des biens, Fritz Stern a eu l'idée inattendue de mentionner le drame des pieds noirs dans la liste des expulsés de leur patrie au XXe siècle. C'est sans doute la première fois qu'un historien, je souligne un grand historien, pensait ainsi au pied noir. Dans un très bref et émouvant souvenir, publié quelques années avant sa mort, René Jean-Clos a écrit « Avec douleur, nous sommes aperçus que parlant des pieds noirs, les métropolitains se trompaient de porte, de nom, de date, de loi et, disons-le, d'histoire de France. Il faut espérer que 40 ans après l'exode dramatique de nos compatriotes, les historiens et les citoyens de la métropole vont repenser et réévaluer le passé des humiliés de l'histoire. Je vous remercie.
Vous avez fait une présentation sur les composantes de la communauté pied-noir qui existait en Algérie à l'époque. Alors la question de fond, je pense qu'il y a une petite confusion que vous faites entre Français d'Algérie et pied-noir. Je m'entends. Je reviens à l'effet du décret Crémieux qui a permis à la communauté juive de devenir française à part entière, chose qui est incontestable et indiscutable. Néanmoins, le fait que vous présentez la communauté juive pour sa majorité comme étant une composante à part entière de la communauté pied-noir, ça me laisse un peu pantois dans le sens où il y a une grande partie de cette majorité qui était une population indigène qui était là avant l'arrivée, donc avant la conquête française. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce point-là, s'il vous plaît ?
Je ne vois pas en quoi le fait que des gens et la nationalité française demandent après on fasse des partages. Ils font partie des Français d'Algérie. Ils se sont ressentis comme des Français d'Algérie. Je ne vois vraiment pas comment on pourrait faire une différence selon l'ancienneté de leur implantation. Ils participaient à la même patrie.
J'ai deux questions à vous poser. La première est, pour quelles raisons les Français constituent-ils l'infrastructure du pays ? Pourquoi les musulmans en sont-ils absents ? Enfin, la deuxième question est, comment pouvez-vous expliquer que les accords Blum-Violette de 1936, qui devaient accorder à 25 000 musulmans les droits politiques, furent refusés par les 300 maires d'Algérie, européens, moins deux?
Je voudrais dire que cette enquête que j'ai faite sur une communauté précise, les Français d'Algérie, c'était pour savoir leur mode de vie, ce qu'ils étaient. Je suis reconnaissant à un journaliste d'Europe 1, M. Frédéric Mitran, qui avait lu mon livre, me dit « Vous n'avez pas fait un livre politique ?» Oui, ce n'est pas un livre politique. C'est essayer de voir une population, ses métiers, ce qu'ils étaient. J'ai dit au début que je ne veux pas faire une histoire du colonialisme. Ça, vous avez toutes les réponses que vous voulez et au-delà. Ce qui n'a jamais été fait jusqu'à ce que je fasse ça, c'est ce qu'est cette population, qui sont-ils ? Et je ne crois pas qu'on puisse poser des questions en les mettant sans arrêt en accusation. C'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure Raymond Aron, qui, je rappelle, avait pris position pour l'indépendance en 1957, c'est-à-dire presque avant tout le monde. Il avait dit aussi que s'il vivait dans les mêmes conditions, peut-être il éprouverait les mêmes émotions, aurait les mêmes conduites. Et donc Raymond Aron invitait à ne pas juger. Et je pense que c'est quelque chose que les historiens doivent savoir, on n'est pas sans arrêt à juger les époques précédentes pour justifier la nôtre.
Madame Bardas-Leroux, merci beaucoup.